verset 32. Et j'aimerais lire juste jusqu'au chapitre 11, verset 7, inclusivement. Donc, Hébreux 10, verset 32. Mais rappelez dans votre mémoire les jours précédents dans lesquels, ayant été éclairés, vous avez enduré un grand combat de souffrance, soit en ce que vous avez été offert en spectacle par des opprobres et des afflictions, soit en ce que vous vous êtes associé à ceux qui ont été ainsi traités. Car vous avez montré de la sympathie pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez pour vous-même des biens meilleurs et permanents. Ne rejetez donc pas loin votre confiance qui a une grande récompense, car vous avez besoin de patience afin que, ayant fait la volonté de Dieu, vous receviez les choses promises. Car encore très peu de temps, et celui qui vient viendra, et il ne tardera pas. Or, le juste vivra de foi, et si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour la perdition, mais de ceux qui croient pour la conservation de l'âme. Chapitre 11. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas, car c'est par elles que les anciens ont reçu témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn, et par ce sacrifice, il a reçu le témoignage d'être juste, Dieu rendant témoignage à ses dons. Et par lui, étant mort, il parle encore. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort, et il ne fut pas trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Par la foi, Noé, étant averti divinement des choses qui ne se voyaient pas encore, craignit et bâtit une arche pour la conservation de sa maison. Et par cette arche, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Hébreux nous donne une présentation merveilleuse du Seigneur Jésus. Nous voyons Jésus. Le verset 9. Et aussi de son œuvre. On a vu, pour juste donner un exemple, son œuvre comme unique et aussi les résultats merveilleux. Chapitre 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Donc là, dans un seul verset, nous voyons l'offrande, une seule offrande. Le résultat, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Donc c'est son œuvre merveilleuse. La troisième partie de cet épître, on a vu la dernière fois, commence au verset 19, ayant donc faire une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par le chemin nouveau. Nous avons parlé de ce passage la dernière fois, nous avons vu notre privilège de pouvoir entrer librement dans le ciel, où le Seigneur Jésus est maintenant. Donc, par l'Esprit et par la foi, nous entrons pour adorer. Nous avons vu, nous sommes maintenant une compagnie d'adorateurs. C'est une pensée qui revient souvent dans cet épître. Chapitre 1er, on a vu déjà les associés, ceux qui sont associés au Fils. Chapitre 2, plusieurs façons, on a vu cela. Et ici, on a donc le résultat, le plein résultat de cette œuvre. faite par cette personne merveilleuse, notre Seigneur Jésus. Et on a vu ces appels, approchons-nous, et aussi notre responsabilité quant à notre marche ici sur la terre. J'aimerais encore répéter ce qu'on a vu déjà, le Seigneur Jésus est notre grand sacrificateur. Nous sommes une famille de sacrificateurs, mais toute l'emphase est sur lui, verset 21, ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Nous avons vu chapitre 3, verset 6, nous sommes la maison, pas seulement la structure, aussi la famille qui habite dans la maison de Dieu. Et le Seigneur Jésus est sur cette maison. Donc un lien intime entre lui et nous. S'il est le grand sacrificateur, ça veut dire qu'il est le premier né d'entre beaucoup de frères. On a vu cela plusieurs fois, cette relation entre le Seigneur Jésus et nous. Et ainsi, il nous introduit dans la présence immédiate de Dieu, comme adorateur. Mais nous sommes encore sur la terre. Et nous avons vu déjà quelques versets la dernière fois qui nous parlent de notre responsabilité. Et ça continue ici au verset 32, là on a commencé à lire ce soir. Et on verra de ce verset jusqu'au début du chapitre 13 que le Seigneur Jésus est notre conducteur à travers le désert. Donc il est le conducteur pour nous introduire dans la présence de Dieu comme adorateur. Il est notre conducteur pour guider un peuple sur la terre. Que nous soyons ici un témoignage pour Dieu sur la terre. Et on verra au chapitre 13, le Seigneur Jésus est aussi notre grand conducteur pour nous faire sortir du judaïsme et par application, on verra, d'un système religieux humain. Et ainsi, le Seigneur Jésus est notre grand conducteur de cette façon-là aussi, comme on verra au chapitre 13. Donc, dans ces trois façons, nous voyons le Seigneur Jésus dans sa grandeur comme conducteur, pour nous introduire dans la présence de Dieu, pour nous conduire à travers le désert, et aussi pour nous conduire pour sortir en dehors d'un système religieux, comme on verra au chapitre 13. Donc, pour reprendre au verset 32 maintenant, mais rappelez dans votre mémoire les jours précédents. C'est ici un encouragement de la part de l'auteur pour que les croyants auxquels il s'adresse premièrement, il s'adresse aussi à nous évidemment, mais premièrement dans ce temps-là, il parlait aux juifs qui étaient devenus chrétiens, donc croyants, et qui avaient souffert. On voit ça dans Actes 8 déjà, et plusieurs chapitres dans les Actes, nous voyons les persécutions qui ont commencé. On voit cela dans Jacques, premier chapitre, versets 2 et 3, par exemple, il réfère à ces afflictions et ces épreuves des croyants tout au début. Et ici, c'est donc 25 ans plus tard, l'auteur dit, mais rappelez dans votre mémoire les jours précédents dans lesquels, ayant été éclairés, vous avez enduré un grand combat de souffrance. L'emphase est maintenant sur l'endurance ou la patience. Le verbe ici, endurer, on retrouve dans le substantif, verset 36, patience, car vous avez besoin de patience ou endurance. C'est cette faculté de la foi dont les croyants avaient besoin dans ce temps-là et dont nous avons besoin aujourd'hui pour pouvoir continuer avec patience, avec endurance, pour endurer, persévérer. Et on verra, donc, dans ce chapitre et chapitre 11, la foi est vraiment nécessaire pour pouvoir endurer, pour pouvoir continuer, persévérer. On verra aussi l'énergie de la foi, au chapitre 11. On verra donc la patience, l'énergie et la persévérance, c'est des qualités de la foi. Et comme dans ce temps-là, les croyants avaient besoin de cette endurance, de cette patience, nous avons besoin aussi de cette patience. Et quelquefois, un rappel de ce qu'on a fait dans le passé pour le Seigneur, rappeler dans votre mémoire les jours précédents, lorsqu'on a fait un choix, lorsqu'on a reçu cette lumière, quel enthousiasme, quel amour, quel dévouement. Il faut continuer dans ce chemin. Malgré ce grand combat de souffrance. Les souffrances, c'est pas quelque chose qui est en dehors du contrôle de Dieu. Il a permis ces souffrances pour former les croyants. C'est une partie du programme de Dieu, de l'école de Dieu, ce grand combat de souffrance. Et le mot combat, c'est comme un athlète. Ça prend beaucoup d'énergie. Et ainsi, ce combat n'est pas facile, mais le Seigneur veut nous aider pour que nous puissions continuer. La foi et les souffrances vont ensemble. Parce que dans ce monde où nous sommes, le Seigneur Jésus est rejeté. Verset 33, soit en ce que vous avez été offert en spectacle par des opprobres et des afflictions, soit en ce que vous vous êtes associé à ceux qui ont été ainsi traités. Donc là, on voit ces deux côtés. Ou bien on est persécuté soi-même, ou maltraité, ou bien on s'identifie avec ceux qui sont maltraités. C'est les deux aspects des souffrances. Ou bien on est exposé soi-même à ces opprobres. Il y a beaucoup de mots qu'on pourrait étudier en détail. On va revenir à ce mot opprobre dans chapitre 13, verset 13, où les afflictions ou les détresses, c'est quelque chose qu'on expérimente donc, à l'école de Dieu, et ces souffrances sont permises de Dieu. Mais on s'identifie aussi avec ceux qui passent à travers ces souffrances. On prie pour nos frères et sœurs qui sont persécutés, qui souffrent à cause de leur foi, qui souffrent à cause de leur fidélité. On s'identifie avec eux. C'est la communion. On s'associe à eux. Ça, c'est donc le verset 33. Ça, c'est vraiment pour encourager les croyants. Il mentionne ces points. Pas pour les condamner, pour les encourager. Verset 34, il donne encore un compliment. Vous voyez, c'est un contraste, en grande ligne, juste cette pensée-là. C'est un contraste avec ce qu'on a vu la dernière fois à la fin, où il doit avertir solennement, si, verset 28 par exemple, si quelqu'un a méprisé la loi de Moïse et a foulé aux pieds le Fils de Dieu, verset 29. Estimé profane le sang de l'Alliance. C'était donc les Juifs qui ont rejeté le Messie, et c'était aussi les Juifs qui s'étaient déclarés chrétiens, mais qui voulaient retourner dans le judaïsme à cause de la persécution. Ça, c'est un avertissement très fort contre de telles actions. Mais ici, depuis le verset 32, l'auteur parle aux croyants qui voulaient suivre le bon chemin, qui avaient besoin d'encouragement. C'est pour ça qu'il dit « Rappelez-vous de ces choses. » Et il donne des compliments dans un sens, verset 34, « Car vous avez montré de la sympathie pour les prisonniers. » Donc c'est pour les encourager de pouvoir continuer dans ce chemin de la foi malgré les persécutions et de ne pas retomber dans le judaïsme. C'était le piège qui était devant eux, parce que l'auteur savait que Jérusalem était pour être détruit. Le temple était pour être détruit. C'était le jugement qui était sur tout ce système à cause du fait qu'il avait rejeté leur propre Messie. Il avait déclaré dans Matthieu 12 que le Seigneur Jésus avait fait ses miracles par Béelzébul. Donc, et officiellement, ils l'ont déclaré comme possédé du diable. Et à cause de cela, ils étaient sous le jugement. Dieu a attendu longtemps, il a attendu 40 ans. Puis là, le jugement est venu. Comme dans les jours de Noé, Dieu a attendu longtemps, mais le jugement est venu. Donc ceux qui voulaient retourner dans le judaïsme, retourner dans le temple, pour éviter les persécutions, ils se plaçaient ainsi sous le jugement de Dieu qui allait venir. Mais les croyants qui voulaient persévérer dans la foi et pour être agréable au Seigneur, ils avaient besoin d'être encouragés pour continuer dans ce chemin. Comme nous avons aussi besoin de continuer dans le chemin de la foi. Et verset 34, on a vu donc cette sympathie qu'ils ont eue, qu'ils ont montrée aux prisonniers. Et vous avez accepté avec joie. C'est pas seulement qu'ils ont montré de la sympathie pour les prisonniers, mais ils ont payé un prix très grand. Ils ont accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens. Verset 34. C'est quelque chose. Ils ont subi de la persécution. Et là, ils ont donc réalisé que les choses terrestres n'avaient pas la même valeur que les choses qu'ils avaient maintenant en Christ. Que même le temple et tout ce service-là n'avaient aucune valeur comparée avec Christ et tout ce qui est en rapport avec Christ. Ils ont fait le bon choix. Mais il avait besoin de continuer maintenant sur ce chemin, sachant que vous avez pour vous-même des biens meilleurs. Ce mot « meilleur » est un mot clé pour cette épître. Ce mot revient souvent. Dans l'original, il y a plusieurs mots différents qui sont traduits par « meilleur ». Mais au moins 14 fois, on a « meilleur » dans cette épître. C'est pour montrer ce que Dieu a introduit maintenant par Christ est meilleur, on a vu, supérieur, meilleur comparé avec ce que Dieu avait donné dans l'Ancien Testament. Un meilleur système, on a vu un meilleur sacrifice, on a vu une meilleure alliance, on a vu une meilleure compagnie d'adorateurs maintenant comparé avec l'Ancien Testament. Et aussi permanent. C'est permanent. Sur la base de l'œuvre accomplie du Seigneur Jésus, il y a maintenant une compagnie d'adorateurs qui ont ces biens meilleurs et permanents. Et ainsi, ils ont de grandes bénédictions. Nous aussi, avec eux, on a de très grandes bénédictions. Matthieu 6, le Seigneur dit, « Amassez-vous pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille gâtent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Et là, il dit, là où est votre trésor, là sera aussi votre cœur. Donc c'était là le cas avec ces croyants. Leur trésor était dans le ciel. Le Seigneur était là. Pour nous, c'est la même chose. Le Seigneur est dans la gloire. Notre trésor est là. Et ainsi, notre cœur est là. Et puis ça veut dire que, ici sur la terre, on peut être exposé à ces persécutions. Mais on réalise que les vrais biens sont dans le ciel. Verset 35. Ne rejetez donc pas loin votre confiance. Ça c'est un autre mot-clé qui ne revient pas aussi souvent que meilleur, mais 4 fois je pense. Et ce mot confiance ou hardiesse va ensemble avec cette nouvelle position du christianisme. Un ciel ouvert, Christ dans la gloire, un libre accès, comme nous avons vu la dernière fois, et cette confiance, cette hardiesse, va ensemble avec cette nouvelle position par rapport à un Christ glorifié. Et sur la terre, on a maintenant aussi besoin de cette confiance. On a vu cela au verset 19, ayant donc fait une pleine liberté. Ce mot « liberté », c'est le même mot. Cette confiance, cette hardiesse que nous avons maintenant pour entrer dans le ciel où Christ est. Maintenant, on a besoin de cette même hardiesse, de cette même confiance quant à notre marche sur la terre, vous voyez. Pour les deux choses, on a besoin de cette confiance, de cette hardiesse qui a une grande récompense. Donc, on a cette confiance pour entrer dans Dieu, dans le ciel, par la foi. On a cette confiance pour marcher le chemin de la foi sur la terre. Verset 36. Car vous avez besoin de patience. Juste pour cela, pour pouvoir continuer ce chemin de la foi, on a besoin de la patience. Mais c'est encore ce mot, endurance. Et on verra dans chapitre 12, l'exemple du Seigneur Jésus. courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix. Le Seigneur Jésus est notre exemple. Il a enduré. Et il est dit au premier verset, courons avec patience ou avec endurance. Il faut endurer. C'est l'énergie de la foi qu'on voit ici. Et l'exemple, premièrement, dans le Seigneur Jésus. On verra cela au chapitre 12. Mais c'est déjà donc indiqué ici, chapitre 10, verset 36, vous avez besoin de patience. Où est-ce qu'on apprend cette patience? À l'école de Dieu. Justement, par les souffrances, il nous forme, il nous fortifie, il nous rend plus fort. Et ainsi, nous sommes à l'école de Dieu pour devenir plus fort, mature. Afin que, ayant fait la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu est un sujet important dans cet épître, soit par rapport à notre privilège pour entrer dans le lieu, dans le lieu saint, dans le ciel, soit par rapport à notre marche sur la terre. Et juste une référence, Hébreux 13, versets 20 et 21, là nous voyons ce travail de Dieu en nous, verset 21, vous rendre accompli en toute bonne œuvre pour faire sa volonté. Donc Dieu opère en nous pour que nous puissions faire sa volonté, faisant en vous ce qui est agréable. Vous voyez, c'est à nous à faire la volonté de Dieu, et Dieu opère en même temps en nous, il fait en nous ce qui est agréable devant lui. Ces deux vont ensemble. Quand on parle de la volonté de Dieu, c'est pour se soumettre à cette volonté, pour qu'on fasse sa volonté. Et c'était le test maintenant. Ceux qui voulaient retourner dans le judaïsme se sont opposés à la volonté de Dieu. Donc, ayant fait la volonté de Dieu, veut dire continuer sur le chemin de la foi pour ensuite, finalement, recevoir les choses promises. On est en route ici, hein? On est dans le désert. On n'est pas encore dans le ciel. On a la liberté, on peut entrer par la foi, par ce nouveau chemin, mais on est encore sur la terre. Et sur la terre, on continue pour faire la volonté de Dieu sous la direction du Seigneur Jésus, notre grand conducteur, pour finalement recevoir les choses promises, pour entrer dans le pays céleste. Chapitre 2, verset 5, nous parle du monde à venir. Dans chapitre 6, nous avons vu aussi une autre description, le siècle à venir. Donc le monde à venir, le siècle à venir, on est en route pour ce nouveau monde. Ok, nous serons au ciel. Lorsqu'on sera dans ce nouveau monde, nous serons au ciel. Mais on est en route, c'est ça le point maintenant, pour recevoir les choses promises. Ou la promesse, à cet égard. Donc Dieu met devant le peuple, son peuple, une promesse. Ça va ensemble avec l'espérance. Hein? On sait souvent que l'amour, la foi et l'espérance vont ensemble. On a vu cela déjà dans chapitre 10. Auparavant, au verset 24, l'amour, on a vu la foi et on a vu l'espérance aussi. Je ne trouve pas tout de suite le verset là, mais les trois vont ensemble aussi dans ce chapitre. Donc maintenant, pour revenir au verset 37, on est en route donc, et qu'est-ce qu'il dit au verset 37? Encore très peu de temps, et celui qui vient, viendra. C'est une belle expression. Celui qui vient, c'est le Seigneur Jésus, il va revenir. Il est appelé celui qui vient. Souvent dans Apocalypse, par exemple, si dans Matthieu, Jean le Baptiseur a demandé, est-ce que vous êtes celui qui vient? C'est donc une expression pour le Seigneur Jésus, pour indiquer la personne du Seigneur Jésus et qu'il va revenir. Matthieu 23, il indique, lorsque vous direz, béni celui qui vient au nom du Seigneur. C'est celui qui vient. mais le peuple l'avait rejeté. Mais il va revenir, il ne tardera pas. Donc la foi atteint. Il est maintenant dans la gloire, nous sommes sur la terre et nous attendons son retour. Entre-temps, on a besoin donc de vivre par la foi. Verset 38. Le juste vivra de foi. Verset 38. Il y a des textes qui disent « mon juste ». Là, l'emphase est sur la relation que nous avons avec Dieu. « Mon juste vivra de foi ». C'est le bon plaisir que Dieu trouve dans les croyants comme juste. Et on verra tantôt dans le chapitre 11 le principe de la justification sur la base du sacrifice. Comment nous sommes justes ici comme croyants? Sur la base de l'œuvre de Christ. Mais ici, ce verset est cité donc d'Habacuc. Il est dit, l'emphase est sur « vivra ». Or, le juste vivra de foi. Ce verset est cité trois fois dans le Nouveau Testament. Dans Romains 1, verset 16-17, pour souligner le juste. Le juste vivra de foi. Là, l'emphase est sur le juste. Dieu déclare le pécheur qui se repent juste. Et l'Épître aux Romains nous montre donc cette justification. Le juste, mon juste. Dans Galates, ce verset est cité aussi. Et là, l'emphase est sur le mot « foi ». En contraste avec les œuvres de la loi, l'emphase est sur la foi. Ici, dans ce contexte-là, le même verset est cité et l'emphase est sur « le juste vivra ». Il faut continuer ce chemin de la foi et puis ça nous amène au nouveau monde où tout est marqué par la vie, la vie. Et cette vie est déjà en nous. Le juste vivra de foi. Donc c'est selon le bon plaisir de Dieu d'avoir un peuple ici sur la terre qui marche sur la base de ce principe-là. Le juste vivra de foi. Mais l'autre côté de la médaille, si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc Dieu aime avoir plaisir en nous. Mais s'il n'y a pas de foi, si on ne veut pas suivre le chemin de la foi, mais on se retire, ici dans ce contexte-là, ça veut dire retourner dans le judaïsme, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais qu'est-ce qu'il dit maintenant l'auteur au verset 39? Je pense que c'était l'apôtre Paul. Il s'identifie avec ses croyants. Il dit, mais pour nous. Et souvent, il s'identifie avec les croyants, les vrais croyants. Plusieurs fois dans cette épître, on voit ça. Mais pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour la perdition. Donc il y en avait parmi ces gens, parmi ces juifs chrétiens, il y en avait qui n'étaient peut-être pas nés de nouveau vraiment. Ils voulaient retourner dans le judaïsme à cause de la pression et de la persécution. Tandis que ceux qui voulaient continuer le chemin de la foi avec l'apôtre Paul, qui était donc en prison à ce moment-là, à Rome, mais pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Donc, ça veut dire, nous voulons continuer le chemin de la foi, nous voulons continuer avec cette confiance ou cette hardiesse du verset 35, nous voulons continuer sous la conduite du Seigneur Jésus, notre chef, au lieu de retourner dans ce système judaïque qu'il avait rejeté. Et là, ce système est sous la perdition, est sous le jugement. C'est un mot très fort, comme Judas Iscariote, le fils de la perdition, Jean 17. C'est un mot très fort. En contraste avec ça, il dit, mais de ceux qui croient, pour la conservation de l'âme. Le mot conservation, c'est le même mot qu'on trouve souvent dans cet épître, salut. Le substantif revient 7 fois dans cet épître, donc conservation ou salut, c'est ici pour le chemin de la foi. On a le salut de nos âmes, 1 Pierre 1, mais ici le salut est par rapport au chemin qu'on va. Ici dans un monde ténébreux, très dangereux, on a besoin de ce salut, de cette... C'est pour ça que c'est traduit ici, conservation, pour être conservé par Dieu lui-même, jusqu'à ce qu'il nous introduise dans ce pays céleste. Donc, la foi est soulignée ici au verset 39 et aussi au verset 38, le juste vivra de foi. Et ainsi, nous allons voir beaucoup de détails dans le chapitre 11 et on va prendre les grandes lignes seulement, mais on verra dans le chapitre 11 beaucoup de détails concernant la foi. Et je mentionne, ce serait vraiment une étude qu'on pourrait faire de différentes façons. Par exemple, juste étudier combien de fois ce mot se retrouve. Je pense dans toute l'épître 32 fois. On verra ce soir seulement les quatre exemples qu'il donne tout au début, qui nous montrent les principes fondamentaux de la foi, ou les principes de base de la foi. On verra dans chapitre 11, verset 3 à 7. Mais avant qu'on arrive là, l'auteur donne une description, ou donne deux caractéristiques de la foi. Ça peut nous aider beaucoup. Ce n'est pas donc une définition. La foi n'est pas définie. Ces deux caractéristiques qui sont mentionnées, c'est d'abord l'assurance des choses qu'on espère, et ensuite la conviction de celles qu'on ne voit pas. Donc il donne deux caractéristiques. La foi s'approprie d'un monde à venir. L'assurance des choses qu'on espère. C'est encore bien en avant. Mais pour la foi, c'est déjà une réalité aujourd'hui. Quelqu'un a dit, la foi rend les choses qui sont futures, elle les rend présentes. Ainsi, la foi s'approprie de ces choses futures. La foi met sa main sur ces choses. Et la foi réclame ces choses pour soi-même. Comme Abraham, il a vu bien loin en avant ce pays promis et il est allé, il s'est approprié de ces choses par la foi. Et lorsqu'il est entré, on verra cela plus tard dans ce chapitre, lorsqu'il est entré dans le pays promis, il a compris que c'était encore un bon bout de temps pour qu'il entre dans ces choses, dans le monde à venir. Donc la foi est l'assurance, ça veut dire ici nous avons une description de la foi d'une façon concrète. J'aimerais souligner l'aspect objectif, ça veut dire c'est le fondement, c'est l'assurance qui établit quelque chose de sûr et certain. Souvent on dit, mais je crois, mais ça peut être vrai, ça peut être pas vrai. Non, c'est pas de cette façon là que la foi est discutée ici. La foi, c'est comme un fondement. C'est sûr et certain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il mentionne, la conviction. Ça, c'est donc l'aspect intérieur. C'est l'aspect subjectif, si je peux utiliser ce mot-là. Et ainsi, ça donne une conviction intérieure des choses qu'on ne voit pas. Et maintenant, on pourrait aussi suggérer ces deux descriptions résument vraiment tout le chapitre. Parce que dans ce chapitre, on verra cet aspect que la foi voit en avant et voit ces choses comme une réalité présente, même le monde à venir, qui est encore à venir maintenant. Pour la foi, c'est une réalité. Et la foi s'approprie de ça. La foi s'identifie avec un autre monde, le monde à venir, avec Christ dans la gloire. Ça, c'est le deuxième aspect. On voit ce qui est invisible. Par la foi, on voit celui qui est invisible. Et ainsi, il est vraiment réel pour nous. La foi s'identifie avec un autre monde. La foi ne s'identifie pas avec nous-mêmes. C'est pas comme beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont beaucoup de foi en eux-mêmes. Ça, c'est pas la façon de laquelle l'auteur parle ici. La foi ici est dirigée vers une autre personne, le Seigneur Jésus dans la gloire. vers un autre monde. Et la foi rend ces choses réelles aujourd'hui, là où nous sommes. Donc soit comme quelque chose d'objectif qui met le fondement sûr et certain, soit une conviction intérieure par rapport à celui qu'on voit par la foi. La foi voit ce monde invisible, la foi voit aussi en haut, la foi voit en avant. Et on verra avec Abraham, l'emphase est sur ce qu'on voit en avant. Avec Moïse, plus tard dans ce chapitre, on verra l'emphase est sur on voit en haut. Mais les deux éléments vont ensemble, évidemment. Et on a vu déjà au chapitre 10, la foi va ensemble aussi avec la pensée d'endurance ou de patience. Et cela, on verra surtout à la fin du chapitre 11 et aussi avec le Seigneur Jésus au début du chapitre 12. Peut-être encore une pensée générale ici au premier verset. La foi voit les choses comme Dieu les voit. On a vu dans le chapitre 10, verset 19, nous avons cette liberté d'entrer dans les lieux saints, par le sang de Jésus. Là, on est avec Dieu, on est en communion avec Dieu. Maintenant, on est sur la terre, ici, sur la terre, et nous voyons donc ici sur la terre les choses du point de vue de Dieu. Dans un sens, on est dans le sanctuaire, on a ce libre accès, et maintenant, on est sur la terre, on voit les choses de cette lumière du sanctuaire. C'est ça le point que j'aimerais souligner. Verset 2. Car c'est par elle que les anciens ont reçu témoignage. Dans ce chapitre 11, nous avons les héros de la foi. Et ils sont appelés les anciens. Donc, ceux qui nous avons, qui étaient avant nous. Nos devanciers, les anciens. Et par la foi, ils ont reçu témoignage. Et il revient même à Abel, comme on verra tantôt, pour montrer ce principe. Un détail au verset 2, par elle, dans le grec veut dire en elle, par la puissance de la foi. Par la puissance de la foi. Donc ici nous voyons que la foi donne une puissance. On voit aussi d'autres propositions qui sont utilisées, par exemple ek, ça veut dire de. Là, la foi est vue comme une source où on verra comme un standard, verset 7 par exemple. Par cette arche, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Là, on voit la foi comme un standard et les choses sont considérées selon ce standard. Ou la foi est vue aussi comme instrument, au verset 33 par exemple. Samuel le prophète qui par la foi, ici la proposition dia est utilisée, ça veut dire par, comme instrument, comme outil. La foi est vue ici comme un instrument. Mais il y a, et ça c'est très intéressant, il y a 18 fois une autre expression qui est utilisée dans l'original. Là, le mot foi est seulement utilisé. Et dans notre traduction, c'est traduit par par la foi. Parce qu'en français, on n'a pas de choix de dire d'une autre façon. Mais 18 fois, on voit cette expression de cette façon-là. Un seul mot, foi, de cette façon-là, traduit par la foi. Et ça divise le chapitre aussi d'une façon très intéressante. 4 fois, par la foi, pour établir les bases. On verra, on va conclure avec cela ce soir. Ensuite, on verra 7 fois, par la foi, avec Abraham et ses descendants jusqu'à Joseph. Et ensuite, on verra 7 fois, par la foi, avec Moïse, verset 23, jusqu'au verset 30 ou 31 par la foi, Rahab. Donc là, c'est toujours cette expression foi qui est utilisée par la, qui est traduite par la foi. Au verset 3 maintenant, on voit donc ce premier principe de base de la foi. Par la foi, nous comprenons. L'auteur s'identifie avec les croyants. Il ne se place pas au-dessus de nous. Il se met à côté de nous. Il dit, par la foi, nous comprenons. Et le mot comprendre ici veut dire l'entendement. Souvent, on pense la foi, c'est une foi aveugle. Non. Selon la définition qu'il donne ici au verset 3, ou le principe qu'il explique au verset 3, par la foi nous comprenons, veut dire la foi donne un entendement pour que nous puissions comprendre les choses, mais par la foi, pas seulement intellectuellement. Mais mon point est maintenant que ça implique donc notre entendement. En anglais on dit mind. Ce mot comprendre met l'emphase sur notre compréhension, notre entendement. Et ainsi, les deux vont ensemble. La foi, ce n'est pas une foi aveugle, mais la foi nous fait comprendre les choses. C'est raisonnable ainsi dans ce sens-là. Tandis que l'incrédulité est irraisonnable, comme on voit avec l'évolutionnisme. Ça, c'est quelque chose d'irraisonnable. Tandis que la foi et cet entendement vont ensemble. Et dans Romains 1, par exemple, nous voyons que par la nature, on peut comprendre les choses, mais jusqu'à un certain point. Mais si on rejette le témoignage de la création, on devient fou, comme Romains 1 montre. Donc cette compréhension de la foi, c'est par rapport à la création. Et ce que j'aimerais maintenant établir, là, c'est un lien avec le monde à venir. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Et ainsi, les croyants, à ce moment-là, avaient besoin de comprendre que Dieu était pour introduire ce monde à venir, ou ce siècle à venir. C'était aussi par une intervention de Dieu. Dieu, lorsqu'il va introduire le monde millénaire, le millénium, le règne de paix sur la terre, c'est comme un nouveau monde. C'est pas encore l'état éternel, Apocalypse 21, mais c'est comme un nouveau monde que Dieu va introduire. Et ainsi, la création du premier monde est comme une illustration de ce principe que Dieu va un jour introduire ce monde nouveau du millénium. Et ce monde, cette création, l'emphase est ici, ça a été formé par la parole de Dieu. Et c'est ici, pas logos, c'est une parole qui est parlée. Comme dans le psaume 33, il a parlé et la chose a été, il a commandé et elle s'est tenue là. Ainsi, la puissance d'une parole, Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. On dirait c'est simple comme ça. Mais ça nous montre la grandeur de Dieu par une seule parole. De sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. Donc ce verset met de côté le principe de l'évolutionnisme. Mais comme j'ai dit, c'est comme une illustration aussi d'un monde nouveau que Dieu va créer, ou recréer, ou renouveler. Le deuxième principe de base, on voit par rapport à Abel. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. J'arrête ici. Abel, son nom veut dire vanité. Caïn, son nom veut dire acquis. Puis vous pouvez lire dans Genèse 4, verset 1. Ève pensait que Caïn était vraiment le Messie. Elle a dit, j'ai acquis un homme avec Dieu. On devrait lire double point, comme dans l'original, Jéhovah. C'était Il pensait que c'était le Messie promis. Non, il s'est trompé. Et puis Caïn, il a rejeté les pensées de Dieu. Abel a compris que ça prend un sacrifice. Genèse 3, on voit que Dieu a revêtu Adam et Ève avec ses peaux, des animaux que Dieu a donnés en sacrifice. Et ainsi, Abel a compris le principe d'un substitut. Ça prend un substitut. Et il est venu avec cette offrande à Dieu dans Genèse 4. Et c'était un sacrifice plus excellent. Ça représentait vraiment les pensées de Dieu. Tandis que Caïn, il venait avec le fruit de ses propres actions, ses propres œuvres, et en plus d'une terre maudite. Dieu ne pouvait pas accepter ça. Caïn représente l'homme qui produit des choses et qui veut être agréable devant Dieu sur la base de ce qu'il a produit lui-même. Ça représente aussi le système judaïque. Ceux qui voulaient être là devant Dieu sur la base de leurs propres œuvres, c'est impossible. Et ainsi les croyants à ce moment-là avaient besoin de suivre l'exemple d'Abel, et nous aussi, et reconnaître que le Seigneur Jésus a donné ce sacrifice une fois, comme on a vu, une fois pour toutes, un meilleur sacrifice, un plus excellent sacrifice. Ensuite, le texte dit, par ce sacrifice, il a reçu le témoignage d'être juste. On parlait tantôt de justification, le juste vivra de foi. Le mot juste, comme ici, se retrouve 7 fois dans Romains, et je pense 4 fois dans Hébreux, mais je ne suis pas sûr. Et Dieu peut donc déclarer quelqu'un juste sur la base du sacrifice. Il vient maintenant devant Dieu sur la base du sacrifice de quelqu'un d'autre, du Seigneur Jésus. Et ça, c'est la base sur laquelle nous sommes devant Dieu. Et Dieu a donné un témoignage à Abel. Dieu a accepté ce sacrifice. Et Dieu a ainsi accepté Abel. Dieu a fait 2 choses. Il a accepté Abel, parce qu'il venait par la foi. Dieu a accepté son sacrifice. Et c'était un meilleur sacrifice. Et Dieu a rendu témoignage de cela. Dieu rendant témoignage à ses dons. Donc on voit ici un homme justifié et un homme qui est maintenant accepté sur la base du sacrifice. Et ainsi c'est avec nous. Juste encore un point pour ce deuxième point. C'est aussi la base sur laquelle Dieu va introduire le monde à venir. Le nouveau monde duquel cet épître parle beaucoup sera introduit sur la base de ce sacrifice de Christ. Maintenant le verset 5. Disons encore une chose de la fin du verset 4. Par lui, donc par la foi d'Abel, par lui étant mort, il parle encore. C'est un prédicateur. Il parle encore. Même quoi qu'il soit mort, il parle encore, parce que son don et son sacrifice, c'est comme une prédication. Il parle encore. Verset 5 nous introduit le troisième principe, c'est la vie de la foi, ou la marche de la foi. Donc on a vu la création, la foi accepte cela, comprend cela. Ensuite on a vu le sacrifice par rapport à la foi. Maintenant, la marche de la foi. Enoch, son nom veut dire inauguré ou instruit, il voit les choses en communion avec Dieu. Il a vu le monde où il était dans ce temps-là. Il marchait par la foi et il fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort. C'est une illustration des croyants qui verront le monde à venir du côté céleste, comme Enoch fut enlevé, nous serons enlevés. Est-ce que tout le monde est prêt ici? Le Seigneur peut venir dans quelques instants. Est-ce qu'on est tous prêts? Enoch était prêt. Il a marché pendant 365 ans avec Dieu. Non, 300 ans. Je m'excuse. 300 ans. Et puis, il a toujours vécu en communion avec Dieu. Ensuite, Dieu l'a pris pour être avec lui. Il ne fut pas trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Ça nous parle de l'enlèvement de l'Église. C'est une illustration de ceux qui verront le monde à venir du côté céleste. Tandis qu'avec Noé, tantôt, on verra un exemple de ceux qui verront le monde à venir du côté terrestre. Donc, verset 5, il fut enlevé, mais avant son enlèvement, il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Dans Genèse 5, on lit, il a marché avec Dieu. Mais Hébreu cite la version des Septuagintes, et là, on voit que ce mot marcher est traduit par plaire à Dieu. Marcher avec Dieu ou plaire à Dieu. Il marchait en communion avec Dieu. Et ce n'est donc pas une contradiction. Marcher avec Dieu veut dire aussi plaire à Dieu. La marche de la foi dans la communion avec Dieu. Et Dieu a donné la récompense, il a enlevé Enoch. Pour nous, la marche de la foi, Dieu va donner la récompense, il va nous enlever. Pour les croyants, à ce moment-là, il fallait qu'ils réalisent qu'ils étaient un peuple céleste, qu'ils attendaient l'enlèvement. Ils n'avaient rien à chercher ici sur la terre, ni à Jérusalem, ni au temple. Verset 6, sans la foi, il est impossible. C'est un mot très fort qui est utilisé 4 fois dans Hébreu. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. On pourrait étudier chaque mot, plaire à Dieu, quelle pensée éprouvant toujours à plaire à Dieu. Est-ce qu'on fait ça? Dieu veut qu'on puisse marcher ainsi selon cette foi qu'on a vue avec Enoch, le 7e depuis Adam. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Donc, c'est beaucoup de pensées là, mais est-ce qu'on recherche Dieu vraiment ici comme croyant? On est déjà croyant, mais on cherche à le connaître mieux. Paul dit, pour le connaître, dans Philippiens 3, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, lui étant rendu conforme à sa mort. Il voulait le connaître, il le cherchait. Et ainsi, nous recherchons Dieu, ça veut dire pour avoir la communion avec lui. Maintenant, le 4e principe de base par rapport à la foi, c'est Noé. Noé, il a regardé en avant ce monde à venir. Avec Enoch, on voit, il voit en haut. Il voit Dieu. Et il marche avec Dieu sur la terre. Avec Noé, il voit en avant. Mais il a aussi marché avec Dieu, évidemment. Il ne faut pas comprendre que ces deux aspects s'excluent. Non, les deux aspects vont ensemble. Mais quelquefois, l'emphase est sur l'un, quelquefois, l'emphase est sur l'autre. Avec Noé, on voit donc qu'il voit le monde à venir d'avance. Et son père déjà a vu ce monde à venir. Il lui a donné ce nom, Noé. Noé veut dire, il nous donne du repos. Mais seulement le Messie pouvait donner le repos. Mais ainsi, Noé est devenu un exemple du Messie. Une illustration du Messie. Le mot Noé veut dire aussi, confort, ou réconfort. Et les Juifs avaient une expression pour ça, Menachem, celui qui donne la consolation. Et ainsi, il y a cette expression dans Luc 2, Siméon attendait la consolation d'Israël. Selon ce même nom Noé, il attendait ce repos, ce réconfort, cette consolation que Dieu allait donner. En tout cas, Noé a regardé en avant, il a vu ce monde à venir. Ça, c'est par la foi. Puis j'aimerais donner 7 points par la foi avec ce verset 7. Donc c'est beau. Le verset 7 donne 7 points en terminant. D'abord, par la foi, Noé. Ça, c'est mon premier point. Noé, son nom, on a parlé de son nom. par rapport au repos ou au confort que Dieu donne, et le point qu'il a regardé en avant. Deuxièmement, étant averti divinement, il était à l'écoute. La foi fait qu'on écoute. Cette expression étant averti divinement, on trouve avec Joseph, le père du Seigneur Jésus, donc son père adoptif, dans Matthieu, il était averti par l'ange. On voit aussi que les mages étaient avertis, c'est le même mot. On voit aussi dans Luc 2, tantôt j'ai mentionné Siméon qui venait au temple, il était averti divinement. C'est la même expression qu'on trouve dans Luc 2 par rapport à Siméon. Et ainsi on voit donc que la foi nous instruit, comme Enoch, la foi nous avertit. Donc Noé était à l'écoute. Est-ce que nous sommes à l'écoute? Donc est-ce que nous sommes, juste pour répéter, premier point, est-ce que nous voyons le monde à venir par la foi? Deuxième point, est-ce que nous sommes à l'écoute pour être avertis par Dieu, par sa parole? Je ne parle pas maintenant des voix que les gens entendent quelquefois, ou des visions. Je parle, on est à l'écoute pour écouter sa pensée. Est-ce que ça vous arrive, vous lisez une histoire de la Bible ou quelques versets, et tout d'un coup, c'est comme Dieu montre quelque chose. C'est ainsi, il nous parle, il nous avertit divinement. Mais c'est par la parole. Ce que Noé n'avait pas encore dans ce temps-là. Des choses qui ne se voyaient pas encore. Vous voyez, la foi qui voit en avant. Ici, nous voyons la clairvoyance de la foi. Okay. Comme j'ai vu tantôt, la foi voit en avant et voit les choses qu'on ne voit pas encore comme une réalité. C'est ça qu'on voit ici, qui ne se voyait pas encore. Il les voit quand même par la foi. Donc il faut comprendre le premier point que j'ai souligné, la foi, Noé, va ensemble avec voir. Et le deuxième point, c'est étant averti divinement, il était à l'écoute. Le troisième point, c'est son exercice. Il craignit. Ça ne veut pas dire qu'il avait peur, mais il était exercé. Il craignit. C'est un mot qu'on trouve, par exemple, pieux, traduit comme pieux. Ça représente l'exercice de la foi. Ici, on voit la piété de la foi, si vous voulez. L'exercice de la foi dans la piété, comme on voit dans type 2, par exemple. C'est l'exercice de la foi, la crainte de la foi. Donc, ça n'a rien à faire avec peur ou être effrayé. Quatrième point, le travail de la foi. Il bâtit une arche. C'est quelque chose, hein? On a étudié si Noé avait seulement ses trois garçons, ça avait pris au moins 90 ans pour construire l'arche. Mais probablement ils ont eu de l'aide, mais en tout cas c'était un grand travail. Il bâtit, c'est le travail de la foi. Et juste une petite parenthèse, le mot arche, c'est le même mot qui est utilisé pour l'arche de Dieu, l'arche qu'on voit dans le tabernacle. C'est intéressant de voir ça. Cette arche était pour conserver les deux tables de la loi. Ici, cette arche était, et ça c'est le cinquième point maintenant, pour la conservation de sa maison. On parlait tantôt de la conservation pour nous garder sur le chemin. Ici, nous avons donc la conservation, et c'est encore le mot salut dans l'original, de sa famille. Qu'est-ce qu'on trouve ici donc? Le cinquième point, c'est le but de tout cela, pour la conservation de sa maison. Et on aime appliquer cela, nous avons plusieurs familles ici, au milieu de nous. Dieu dit, toi et ta maison. Noé et sa maison. C'est beau de voir ça. Trois, il a dit, Paul a dit cela, Géolier, que tu seras sauvé, et ta maison. Donc on voit ici ce principe dans les voies de Dieu, dans le gouvernement de Dieu. Toi et ta maison. Le sixième point, par cet arche, il condamna le monde. Ici, on a donc un témoignage public. Il condamna le monde. Et c'est un mot très fort. Nous avons été tirés de ce monde, mais on sait que ce monde gît dans le mal et est sous le jugement de Dieu. Et par cette arche, par la construction de cette arche, c'est comme une illustration. C'était très fort. En anglais, on utilise le mot object lesson. C'était comme une instruction, une illustration. Et attention, Dieu va juger ce monde. Donc, les gens qui ont vu cette construction, chaque jour, ils se sont habitués. Ils m'ont dit, ce gars-là, il est fou, complètement fou. Il n'avait, dans ce temps-là, il n'avait pas même vu la pluie. Il n'avait pas de pluie avant le déluge. Donc, vous voyez comment la foi était grande avec Noé. Et c'était en même temps, donc, un message aux gens de ce temps-là pour se convertir. C'est pour ça que Noé est appelé prédicateur de la justice dans Pierre. Donc, le sixième point est, il a condamné le monde. C'était donc un témoignage public qu'il a donné. Et ainsi, Dieu nous a laissés dans ce monde pour être des témoins. Nous appartenons à un autre monde. Et Dieu nous laisse encore ici pour être des témoins. Maintenant, le septième point. C'est quoi le septième point? C'est sa récompense. Il devint héritier de la justice qui est selon la foi. Là, nous voyons donc la récompense de la foi. Héritier de la justice. Je souligne encore le mot justice. On a vu, Dieu nous a déclaré juste, mais le monde à venir sera marqué par la justice. Là, la justice va régner dans le millénium. Et Noé était déjà donc héritier de la justice de ce monde à